Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Surédin.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien. Heureux de vous retrouver ce lundi 23 septembre. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine, avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, vous avez l'habitude, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Ce soir, c'est Maxime Brossard qui nous donnera l'agenda de la semaine et le débat avec le début de la Coupe du Monde de rugby. Ça a bien débuté pour le 15 de France. Enfin, justement, nous recevrons Yannick Jauzion, ancien international du 15 de France, demi-finaliste en 2003 et en 2007. Avec nous ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime.
Salut.
Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
Éric Dupri pour la première de la saison. Bonsoir Éric.
Oui, bonsoir Jean.
Et le grand retour de Marek Keita. Bonsoir Marek.
Hello.
En anglais, alors pour ceux qui ne connaissent pas ou Marek Keita, on peut pas l'oublier. Donc c'est soit on le connaît
Il a marqué l'émission de son passage.
Exactement.
C'est pour ça que je m'attendais à un petit jingle.
L'hymne australien.
Au moins.
Marek Keita avait débuté l'année dernière la saison septembre, en octobre, avant de nous quitter pour faire un an d'exil en Australie. Et il est revenu jeudi soir. Donc voilà, ravi de vous retrouver. On fait l'émission en français, ça vous va?
Ah, ça me va, oui.
Mais pour tout le monde, ça va. Je pense qu'avec Maxime, nous en anglais. Il y a juste Marek qui parlerait lui tout seul, je pense.
Moi, je peux le faire en anglais si vous voulez.
Ah bah, on attend que ça.
Good morning. Ça va, il y a encore le décalage horaire peut-être dans les
jambes. Ouais, on est encore un peu la tête dans les chaussettes.
C'est combien là le décalage?
Il est 8 heures de plus là-bas. Donc
il dort Marek là.
Pleine nuit là-bas.
C'est pas le vrai Marek.
Vous vous levez dans pas longtemps là.
Oui,
c'est ça. Beau cadeau d'anniversaire pour Timothée. On va pas le souhaiter parce qu'il faut pas le souhaiter.
Ça porte malheur,
avant.
Hein.
C'est demain.
Ah ben oui, c'est demain. Mais quelle belle surprise, mais inattendue.
Personne
n'était au courant. Plus beau des cadeaux avant l'anniversaire. Non, formidable. Hyper heureux, content de retrouver tout le monde. Ah ouais, non mais là.
22 ans, c'est ça?
22. Ouais.
Il est fait pas en plus.
Ah non, il est fait pas.
En plus.
Mais ça commence à accumuler là les années. Au bout d'un moment, faudrait que ça s'arrête.
Il fait beaucoup plus. Par contre, vous faites 22 ans, Éric Dupri.
Merci. Foutez-vous de moi.
Comment vous allez en ce lundi?
Je me sporte très bien.
Bon, c'est parfait alors.
Vous avez vu, comme j'ai travaillé un peu mes réparties.
On voit ça. Et Maxime, pour finir le petit tour.
Toujours en canne.
Voilà.
Et puis je suis content de retrouver Marek. Voilà, ça fait plaisir de le revoir là.
Il nous a déjà, on va pas le dire parce que
c'est. Il y a une pointe de nostalgie quand même dans vos voix, messieurs. Hein.
Bah ouais, les
amis, je suis là.
On est content. Il y a Romain qui est à la vidéo, Coraline qui est bien évidemment au son. Et c'est vrai que Marek, ça fait plaisir de le.
En plus, il est là pour la saison.
Ah oui, cette fois, je fais la saison en entier.
Ouais, on fait ça. Puis en novembre, il va nous dire je pars au Brésil.
Un transfert au Brésil.
Exactement. Bon, je vois que vous êtes en forme. On va pouvoir démarrer tout de suite avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, une joie, une déception. Et cette semaine, on va garder Maxime Brossard en dernier. Vous allez comprendre pourquoi.
Le meilleur pour la fin.
Le meilleur pour la fin. Nous sommes obligés et promis, je n'ai rien dit. Honneur au retour. C'est parti.
Oui.
Allez, Marek Keita, on va parler de foot.
Ouais.
Coup de gueule sur l'Olympique Lyonnais, défait 1-0 hier par le Paris Saint-Germain.
Ouais, coup de gueule uniquement sur l'Olympique Lyonnais. Alors, j'arrive un peu pas avec de la bonne humeur.
Il est dans le ton, direct.
Il arrive, il n'est pas content. Direct.
Voilà, exactement. Non, oui, coup de gueule parce que match fermé jusqu'à la 87e minute et ce fameux but libérateur de Neymar, une nouvelle fois dans le Money Time.
Ouais.
Et coup de gueule parce que non-match des Lyonnais qui était un match qui était pourtant d'ailleurs annoncé comme une sorte d'autre match de Champions League. C'est ce qu'avait dit Tuchel en conférence de presse, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc. Ouais. Et les Parisiens qui, eux, ont totalement maîtrisé leur match, qui ont assailli plusieurs fois la défense lyonnaise, mais qui eux en fait ont opté pour un dispositif de trois défenseurs, un dispositif qui normalement se veut offensif, mais avec des ailiers qui montent. Mais là, en revanche, on a eu juste une équipe, un bloc très soudé, certes, mais absolument aucun spectacle. On en attendait beaucoup plus de la part des Lyonnais. J'ai été très déçu. Voilà.
Et pourtant, sur les dernières années, depuis que le Qatar est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est l'Olympique Lyonnais qui a battu le plus le Paris Saint-Germain encore l'année dernière. Et Paris n'avait plus battu le PSG à Lyon. Ouais. Paris n'avait plus battu Lyon, pardon, à Lyon depuis 2016. Donc exactement. On pouvait s'attendre vraiment à ce genre de match.
Ouais, mais et d'ailleurs, juste pour la petite statistique, c'est la première fois que Lyon ne cadre aucun tir lors de ses matchs à domicile.
Ouais, depuis 2000, voilà. Au moins 2006.
Depuis 2006-2007, ouais, la stat était sortie.
C'est gigantesque. Timothée Rouvière, c'est vrai que c'est incompréhensible.
Mais je suis carrément d'accord avec Marek. Lyon, ils ont bien démarré. Il y a eu une ou deux victoires en début de saison. Moi, clairement, j'ai pas peur de le dire. Je pense que Lyon est la deuxième meilleure équipe sur le papier.
Mais largement.
En championnat de France. À chaque ligne, tout est équilibré, etc. Ils ont un bon style de jeu. Ils ont un super directeur sportif.
Qu'est-ce qui manque alors?
On sait pas, je crois que c'est le mental qui pose problème. On l'a vu avec Genesio,
bon, ils ont
ça
perdu
posait problème. On l'a vu avec Rémi Garde, ça posait problème. Là, avec Silvinho, ça marche pas non plus. Pourtant, entre Depay, Dembélé, Aouar, Touzard,
Denayer, Lopez,
ils ont perdu leur capitaine.
C'est très bien partout, on comprend pas et on est hyper déçus. Il y avait quand même pas mal d'absents du côté de Paris. Pas Icardi, pas Cavani. Bon, Neymar était là, mais ouais, il revient juste. Pas Mbappé non plus. Il y avait clairement
après,
la possibilité
de faire
quelque chose.
Ça les a pas empêchés de battre le Real jeudi.
C'est vrai, mais il y avait clairement la possibilité de faire quelque chose. Je pense du côté de du match contre Paris, il n'y a rien eu.
Après, en revenant sur un mot sur le PSG, quand on regarde l'effectif, messieurs, nombre d'absents et l'équipe qui met mercredi soir, trois jours plus tard, sur un match de la même intensité, on me dit ce qu'on veut, hein, Ligue des Champions, et ils jouent à Lyon, c'est exactement la même chose.
Oui, il y avait énormément d'absents.
En trois jours, mettre autant d'intensité, de rythme, de technicité dans ces genres de matchs, avec autant d'absents. Alors, on parlera du Paris Saint-Germain dans la saison, bien évidemment. Mais c'est vrai que Lyon n'est pas tombé contre n'importe qui non
plus.
Oui,
c'est sûr, parce qu'il n'y avait pas Kerrer, il n'y avait pas Draxler, il n'y avait pas Sarabia. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même une très grosse équipe de Paris. Mais là, et c'est là où je rejoins Marek, c'est qu'il y a eu un non-match de Lyon. Et c'est ça le problème.
C'est d'autant plus étonnant que c'était sans doute le match ou jamais pour battre le PSG cette année. Donc, c'était à domicile, ils venaient de jouer un gros match en Ligue des Champions, ils n'avaient pas leur effectif au complet. Et effectivement, on a l'impression qu'ils sont complètement passés à côté. Alors, est-ce que c'est l'enjeu qui les a paralysés? Est-ce qu'effectivement, il y a un problème mental, sans doute? Mais c'est très regrettable pour eux, tout de même.
Je pense pas que c'est l'enjeu. Ça fait 4 ou 5 matchs que Lyon, ça va pas. C'est des matchs nuls, c'est des défaites.
Ouais, ça va. Enfin, je trouve qu'ils ont. C'est pas non plus catastrophique.
Catastrophique, mais avec une équipe sur le papier comme ça, on s'attend à des victoires.
Ouais, c'est surtout à la maison.
Et du spectacle aussi. Ouais.
Un mot sur Claude, un auditeur qui nous écoute beaucoup et qui nous a parié, alors avec modération bien évidemment, que si le Paris Saint-Germain avait moins de 15 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, il nous envoie un magnum de champagne. Alors à boire avec modération.
On va supporter Paris,
et j'espère qu'il va tenir le Paris, le connaissant, il va le tenir, mais vu comment c'est parti, 7 points de retard déjà pour Lyon, il est pas prêt de nous le donner, la bouteille de champagne. Gardez la parole, Timothée Rouvière. On garde le ballon rond, mais on le met un peu plus léger. On met un grand filet et on va parler de volley. Coup de cœur, bien évidemment, sur l'équipe de France de volley qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro.
L'Euro qui a débuté il y a une semaine, donc c'est vrai que c'est un petit peu passé inaperçu parce que la Coupe du Monde de rugby commençait quasiment en même temps, à quelques jours près. Et l'équipe de France qui engrange des victoires, ils avaient déjà fait une bonne préparation avec que des victoires, 4 sur 4. Là, il y a 3 victoires en match de poule, 3-7-0, sans discussion possible. Et ils battent la Finlande 3-0, et là, ils rencontreront l'Italie. On voit une équipe de France conquérante, on voit une équipe de France qui joue bien, qui s'est bien préparé, etc. On avait souvent l'impression que au milieu de la compétition, il y avait quand même une baisse physique et une baisse en termes d'intensité tactique, et c'est là que ça pêchait. Mais là, on a une équipe de France qui a beaucoup joué avec ses remplaçants au début, et donc c'est pour ça que les titulaires peuvent maintenant assurer. Il n'y avait pas Ngapet qui revient, donc là, c'est le facteur X de l'équipe de France. Ce sera un petit peu compliqué contre l'Italie, qui est quand même vice-championne olympique en 2016. Contre le Brésil, qui avait été champion olympique.
C'est l'un des plus gros championnats pour les clubs.
Entre Modène, il y a beaucoup de gros clubs en Italie. Voilà, il y a après donc si ça gagne, et ben il y aura il y a aussi la Pologne, il faut pas oublier la Russie qui sont double champions, qui sont champions olympiques ou les champions du monde.
Ils ont gagné les deux dernières ligues mondiales.
C'est vrai qu'il y a une très grande densité en Europe entre la Pologne, la France, l'Italie et la Russie, mais ça fait plaisir à voir et le public est au rendez-vous, et c'est ça qui est aussi bien pour un sport comme le volley qui est pas énormément médiatisé.
L'Euro commence vraiment pour la France ce soir, sans manquer de respect à la Finlande, sans manquer de respect au Portugal, à la Grèce et tout ce qu'on a joué durant les phases de poule. Là, l'Italie, c'est le premier gros morceau. Il y avait la Bulgarie aussi en phase de poule,
qui a été éliminée, 3-0, qui a été éliminée contre la Slovénie.
Mais là, c'est vraiment le premier gros test.
C'est souvent comme ça dans ce genre de discipline, un peu, les matchs de poule, finalement, ils servent à se mettre en jambes. C'est un peu une continuité de la préparation. Et puis, dès qu'on arrive dans les quarts, c'est là que c'est costaud. Ouais. On va le voir. De toute façon, l'Italie, c'est le meilleur championnat d'Europe. Donc, c'est là où il y a toutes les stars. à eux de se mettre au niveau, mais je pense qu'ils vont le faire quand même, parce que vu tout ce qu'ils nous ont montré, et vu, comme l'a très bien souligné Timothée, la bonne gestion des troupes, ils vont arriver frais et conquérants pour ce quart.
Timothée Rouvière.
Oui, moi je pense qu'il y a vraiment possibilité d'aller au bout cette fois-ci. Donc maintenant, après, il faut aussi décrocher la qualification olympique. Ça serait vraiment top. Mais ouais, une équipe de France qui marche bien. Donc voilà, on va espérer gagner ce soir.
À suivre chez nos confrères de la chaîne L'équipe, ouais. France-Italie, pour le quart de finale de l'Euro qui se dispute en France. C'est à Nantes, de mémoire.
À 20h45.
Ouais, exactement. On va en parler sûrement dans l'agenda tout à l'heure. Éric Dupri, on parle un peu de rugby. Alors, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de déception, c'est un coup de blues. C'est sur Wesley Fofana.
Oui, je suis un peu triste. Pour ce joueur, alors on va parler de rugby tout à l'heure et on va avoir pour invité un ancien trois quarts centre, donc peut-être qu'on pourra lui en parler d'ailleurs. Mais oui, je suis un peu triste pour ce joueur que moi j'ai toujours beaucoup apprécié. J'ai aimé son style, j'ai aimé ses accélérations, et malheureusement il a eu sa carrière complètement plombée par les blessures ces dernières années. Il n'a jamais pu vraiment enchaîner, même en club d'ailleurs, et puis il finit sa carrière en équipe de France sur un énième forfait et il ne participera pas à cette Coupe du Monde qui devait être sa dernière compétition. Donc oui, je suis un peu triste pour lui, oui, c'est vrai.
Timothée Rouvière.
Oui, c'est vrai que c'est décevant pour Wesley Fofana,
c'est vrai que c'est sa carrière.
C'est vrai que c'est sa carrière, ça a toujours été des
blessures. Très fragile,
c'est un joueur,
fragile,
c'est un joueur exceptionnel, capable de coups formidables, on se rappelle de l'essai qui met contre l'Angleterre. Ouais. Mais voilà, plombé par les blessures, donc, et surtout, le problème pour Wesley Fofana, c'est qu'il était annoncé titulaire, en fait, avec
qui couvre vraisemblablement,
donc c'est Vatakawa qui va prendre sa place. C'est le jeune Pierre-Louis Barassi qui a été appelé.
Il joue à Lyon, hein.
Oui,
il est champion du monde des moins de 20 ans.
Et voilà.
Donc là où c'est bien, c'est qu'il y a la Coupe du Monde des 2023. Ça donne,
voilà,
ça donne une expérience
l'avenir
pour la Coupe du Monde qui se disputera en France. Hein.
Un petit peu inattendu quand même, parce que 20 matchs en top 14 avec Lyon. Bon, c'est bien aussi. Après,
il y a toujours une surprise en général. Hein.
Mais pour revenir sur Wesley Fofana, dommage qu'il finisse là-dessus, parce qu'il a dit qu'il arrêtait sa carrière après la Coupe du Monde. Donc on pourra le revoir sur un terrain.
Carrière internationale.
Oui, international.
Oui, international, parce qu'il aura 32 ans en janvier. Il aura 32 ans en janvier, mais bon, oui, il aurait mérité une autre sortie, je pense.
Et là, on va suivre bien évidemment le 15 de France qui va jouer contre les États-Unis le mercredi 2 octobre. À 9h45 du matin. On en parlera bien évidemment du 15 de France tout à l'heure dans le débat et avec notre invité. Là, par contre, on va parler sport. On va parler sport. Je me tourne vers vous, Maxime Brossard. Je ne dis rien, c'est un coup de cœur.
J'en tremble déjà. écoutez, mais tout simplement, oubliez la Coupe du Monde de rugby, la Ligue 1, la Première Ligue. Oubliez aussi l'Euro de volley, puisque pendant 90 minutes, les yeux de la planète entière vont être rivés sur cette rencontre. Je veux bien sûr parler de Rodez Sochaux. Ce sera ce vendredi à 20h au Stadium de Toulouse, le 8e contre le 9e de Ligue 2. Alors, une petite stat pour faire plaisir à Jean. Enfin, faire plaisir, non, puisque c'est surtout, ça va être une question de revanche pour les Sochaliens, puisque le dernier match, et oui, souvenez-vous, Jean, c'était en 1991. Enfin, vous n'étiez pas né, mais.
Je m'en souviens.
C'était le 14 mai 1991. Et il y avait eu une défaite de Sochaux 2-1 contre Rodez en quart de finale de la Coupe de France.
Et
Rodez après s'était incliné contre l'OM en demi ensuite, mais bon voilà, je vous ai planté le décor de ce match incroyable. Ouais. Voilà.
On s'en souvient.
Gros match. Par contre, on rappelle que Rodez joue ce soir à Lorient, match à 20h45 sur Canal Plus Sport. On va en parler tout à l'heure. Quelqu'un va regarder Rodez Sochaux.
Vous allez au stadium, hein, Jean, non ?
Bien évidemment. Voilà. Je serai à 17h, je pense, au stadium.
Le premier devant les grilles.
J'exagère bien évidemment.
Et quels sont les pronostics de l'un et de l'autre ? C'est ça qui m'intéresse.
On peut faire.
On va savoir qui va payer le champagne.
Moi, je vais dire victoire de Rodez. 2-1, tiens, comme en 91.
Vous voulez vous faire virer Timothée Rouvière.
Ah, il faut pas. Allez, 3-0 pour Rodez.
Lui, il veut vraiment se faire. Marek, c'est votre tour.
On va resserrer. 3-2, allez. 3-2, mais pour Rodez, excusez-moi, Jean.
Alors, moi, je vais mouiller, je vais prendre des risques. Match nul.
Bien.
Un partout.
Et je pense que.
Il faut noter, il faut enregistrer à la régie.
En toute objectivité, Sochaux va gagner 1-0, bien évidemment.
Bon, mais voilà. Bon. Écoutez, on verra.
On verra, ce sera.
Il
n'y
aura pas de spectacle alors.
C'est double lame, c'est Sochaux et au stadium.
Exactement. Bon, on se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec l'agenda de la semaine. À tout de suite. Hey, now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in. Switchblade coming for your flesh and your bones. Inside, in between. I'm
same contract, never not alone. No time left for me. Land and space, all the words, freedom of a bunch of page is drowned in ink. Inside out, keep it brief, keep it sober. Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Karma shifting shapes in the shadows. Staying inside the lines. Lost all trace of the life that you borrowed. Lost all sense of time. A cheap tricks, just kicks, just to keep it steady. Severed at the roots. Silence rules when your heart's feeling heavy. Silence tells the truth. When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. About me, I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in.
Sportez-vous bien? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard. Oui. Et comme d'habitude, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est ce que je fais, je me répète souvent, ouais. Toutes les semaines, une actu bien chargée pour ce mois de septembre, le 23 ouais. septembre. On parle de rugby, bien évidemment.
Oui, bien sûr. Ouais. Donc le rugby avec l'équipe de France qui voilà, a remporté son match d'ouverture contre l'Argentine, 23-21. Et donc prochain match, ce sera donc mardi de la semaine prochaine, le 2 octobre. Donc voilà, ils affronteront les États-Unis. Voilà, donc à voir.
Match à la portée de
confirmation normalement.
De France,
ouais, voilà. Ça devrait aller. On espère. Demain, sinon, voilà, si vous aimez vraiment le rugby, mais alors vraiment énormément, il y a Russie-Samoa à midi 15. Voilà, si vous avez, enfin, on ne sait jamais.
Là, il y a du rugby très ouais. exotique. Ouais,
buvez un pack de Red Bull à mon avis avant, parce que ça va être quelque chose. Donc Pro D2, on continue. Donc là, c'est la reprise. Ce sera donc le 27. Ce sera vendredi avec Aurillac qui reçoit Montauban, les Montalbanais qui sont cinquièmes. Ce sera à 20h et Oyonnax qui va accueillir Colomiers, nos Columérins qui sont dixièmes. Donc les deux équipes ont fait le même parcours. Elles ont perdu toutes les deux à la maison lors de la dernière journée. Colomiers a perdu contre Soyou Angoulême, mais Montauban avait perdu contre Nevers. Donc réaction attendue des deux côtés. Voilà, donc ensuite rapidement je passe au top 14, avec Castres Agen à 18h, ce sera samedi. Donc Castres qui est un peu à la peine en ce début de saison, 11e, et Agen qui marche plutôt bien, 8e, une bonne surprise le SUA. Je pense qu'ils sont en bonne voie déjà pour le maintien. Par contre, une équipe qui n'est pas en bonne voie pour le maintien, c'est le Stade Toulousain, malheureusement. Enfin non, je rigole, c'est pour la blague. Ils sont 12e, c'est un peu la crise. Ouais, bon, on sait que c'est un contexte particulier. Et attention, parce qu'ils reçoivent Pau. Aïe, et j'ai bien peur que Pau fasse encore un exploit. Et j'ai bien peur que Pau ne se qualifie pas aussi aux phases finales en fin de saison. Mais bon,
on a l'habitude, voilà. Ça. Mais...
Coraline, vous avez déjà votre place, j'imagine.
Ben même pas en plus, même pas, même pas.
Ouais. Bon, il faut faire quelque chose là. Si vous avez des places pour Stade Pau, appelez la radio
prêt,
et puis Coraline est preneuse. Voilà, donc
elle va les prendre, ouais.
Après, un petit mot sur la Fédérale 1, rapidement, ça reprendra les week-ends du 5, 6 et 7 octobre. Là, il y avait une journée, donc Pro D2, Poule 2, pardon, il y avait Castanet qui avait en dernier et qui a perdu donc contre Bourgoin 14-29. Dans la Poule 3, donc Albi a battu Lavore, Groyer a battu Laurent, Saint-Sulpice-sur-Lèze a battu Bagnères, Blagnac a battu Tarbes 19-3 et Florence a battu Lannemezan 16-15. Voilà, on passe au foot.
Au moins c'est complet. Le football avec le TFC vainqueur de Nîmes.
Nîmes donc qui a gagné 1-0. Non, Nîmes vainqueur du TFC.
Oui, pardon.
TFC qui est 13e donc avant de recevoir les terribles Angers qui sont second. Voilà, incroyable. Sera mercredi à 19h. Il y aura aussi un derby Montpellier-Nîmes à 19h. Et samedi, le TFC sera de nouveau sur le terrain. Il sera en déplacement en Lorraine. Ils auront à Metz à 20h. Donc Metz qui est 18e. Donc là, c'est le moment de prendre les points à l'extérieur. Ouais.
La Ligue 2.
Ouais, donc ce soir, vous l'avez très bien dit, Jean. Lorient 2e reçoit Rodez 8e. Répétition générale donc avant le choc tant attendu au Stadium contre Sochaux. Voilà, match niveau Ligue des Champions à mon avis.
Et minimum.
Et je passe rapidement donc National 2, Colomiers 6e qui va se rendre à Nantes. Ils vont affronter la réserve de Nantes, donc Nantes qui est 5e. Voilà, ils font un bon petit début de saison, les Colomérins. Ce sera par contre le 5 octobre à 18h. Voilà, le volet.
Ouais. Un mot de volet.
Ouais, le volet, rapidement, on en a parlé.
L'Euro, bien évidemment.
Avec Timothée, donc quart de finale de championnat d'Europe, donc France-Italie à 20h45 sur la chaîne L'Équipe. Voilà, bon, pas grand chose de plus
21,
à dire.
Hein.
Mettez vos maillots et vos écharpes.
Allez les Bleus, un mot de handball, gros match pour, ouais. pour le Phoenix.
Oui, le Phoenix, 5e du championnat qui a fait un bon début de saison, lui aussi, ils ont battu Dunkerque 31-28. Et là, gros choc demain à 21h puisque c'est Paris. Donc PSG-Toulouse demain à 21h. Voilà, si pareil, ben, mettez vos écharpes et vos maillots, et puis là, pour le coup, soutenez le Phoenix, on espère qu'ils vont gagner.
Face au Paris Saint-Germain.
On reste dans la salle, du coup, on reste sur le parquet.
On fait du basket.
Ouais, du basket. Ah, ouais. D'ailleurs, on va être invité normalement la semaine prochaine, c'est ça.
Peut-être.
Voilà.
Peut-être.
Joue au TBC, donc Toulouse Basket qui a repris. Ils se sont imposés 98-84 contre Dax lors de la dernière journée. Et le prochain match est ce vendredi à 20h30. Et ils jouent contre Vitré. Voilà, on espère qu'ils vont gagner.
On termine par le hockey, les Belugas qui ont repris la saison.
Voilà, les Belugas qui ont gagné 2-1 contre Vaujany. Le prochain match, ce sera contre une équipe très costaud, un favori de ce championnat, ce sera Annecy. Et voilà, ce sera à l'extérieur. Donc,
gros match pour
les Belugas, ouais, d'entrée.
Merci Maxime, au moins c'est complet. Et on passe tout de suite au débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
Vendredi a débuté la 9e Coupe du Monde de rugby au Japon. Si les All Blacks, double champion du monde en titre, partent grands favoris, certaines équipes comme l'Afrique du Sud, l'Australie et pourquoi pas l'Angleterre peuvent jouer un mauvais tour aux Néo-Zélandais. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude, on ne répond que par oui ou par non et on débat ensuite. Tout simplement, est-ce que les All Blacks peuvent-ils perdre le titre ou tout simplement est-ce qu'ils sont intouchables? Maxime Brossard.
Non, ils ne sont pas touchables.
Timothée Rouvière.
Oui et non.
Marek Keita.
Allez, on va dire oui.
Et Eric Dupri.
Oui, ils peuvent perdre le titre, bien sûr.
Ils peuvent perdre le titre.
Ouais.
Contre qui ils peuvent perdre le titre? Alors déjà, est-ce que c'est ils vont perdre le titre ou est-ce qu'ils vont mal jouer? Vous voyez comment on peut angler le truc.
Ouais.
Est-ce qu'ils vont perdre ou est-ce que les autres vont gagner? C'est ça le truc. Marek Keita.
C'est une question qui est assez délicate parce que on attendait justement le choc de samedi contre l'Afrique du Sud donc et la Nouvelle-Zélande puisque il y avait quelques doutes sur la notamment au niveau de la composition des All Blacks puisque Barrett, le meilleur ouvreur du monde, avait été replacé à l'arrière.
Ouais.
On se demandait un peu ce que ça allait donner la nouvelle charnière. Et ça a très bien fonctionné en fait. Donc, disons que et l'Afrique du Sud qui elle a mis un gros boost dans les 20 premières minutes, mais finalement c'est a perdu. Donc, moi je dis oui pour
ils peuvent perdre.
La Nouvelle-Zélande peut perdre parce que donc la prochaine fois que l'Afrique du Sud pourrait rejouer contre
c'est en demi je crois.
Non, c'est en finale. Qui sont économisés, je sais pas trop, mais voilà, c'est possible en tout cas.
Timothée Rouvert.
Alors le problème avec les All Blacks, c'est que c'est vrai que moi j'ai regardé le match durant les 20 premières minutes, on voit clairement qu'ils sont malmenés.
Ouais.
On se dit voilà, ils bafouent leur rugby, les Sud-Africains qui ont fait quand même une grosse préparation, tout le monde a vu la petite photo sur les réseaux sociaux là, les bodybuilders.
Comme le Toulousain Colby.
Voilà, comme le
monstrueux.
Il a fait un match formidable. Hein,
Colby. Oui.
On se disait peut-être les Sud-Africains sont les seuls à pouvoir tutoyer les sommets en battant les Blacks. Mais on a vu en fait que les Blacks. ils font ce qu'ils veulent en fait. C'est les Blacks. C'est-à-dire que quand
c'est un peu comme les États-Unis au basket.
C'est-à-dire que quand ils décident d'accélérer, eh bien il y a plus personne qui les revoit. Donc je pense pas que l'Afrique du Sud peut barrer les Blacks. Je pense plus à une équipe comme l'Angleterre ou comme l'Irlande ou comme le Pays de Galles, qui ont démontré au cours des 2-3 dernières années qu'ils étaient beaucoup plus forts qu'il y a une dizaine d'années, qui ont battu les Blacks lors des tests de match. Et donc ça peut peut-être se jouer. Mais après, c'est vrai qu'ils sont quand même bien au-dessus du lot.
Éric Dupré, vous êtes d'accord, un pays européen, alors pas la France normalement, mais on le rappelle que la France est le dernier pays à avoir éliminé, à avoir battu les All Blacks en Coupe du Monde. Et le dernier essai marqué, l'essai de la victoire, c'est Yannick Jozion qui sera notre invité tout à l'heure.
C'est même la dernière équipe à avoir failli les battre en Coupe du Monde, mais c'était en finale.
C'était en finale, exactement. Mais un pays européen pour les battre ?
L'Angleterre, sans doute. L'Irlande, je n'y crois pas trop.
Les Gallois sont en grande forme.
Après, bon, après, il ne faut pas oublier que lorsque ce sera les matchs couperets, sur un match, tout peut arriver, bien sûr. Mais bon, je rejoins Timothée au sens où, oui, ils peuvent être battus, mais il va falloir les battre quand même. Et donc, il faudra être vraiment meilleur qu'eux pour les battre. Ils peuvent toujours faire basculer un match à tout moment parce qu'ils ont, tout un tas de
joueurs
extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Ils ont un système de jeu aussi qui peut... Ils sortent très fort dans l'improvisation aussi, plus que ne peuvent l'être les Sud-Africains, à l'exception effectivement de Cozil, qui lui est capable de créer des brèches incroyables. Bon, c'est un tournoi. Ce premier match, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder dessus.
Oui, de toute façon,
il va se passer beaucoup d'autres choses ici. Il peut y avoir des blessés.
On rappelle qu'ils sont dans la poule du Canada, de la Namibie et de l'Italie. Donc, sans faire offense à ces trois pays, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande sont en quart de finale. On a un cataclysme historique.
Ils sont déjà en demi, les Nouveaux-Zélandais. Puisque dans tous les cas, ils affronteront l'Écosse en quart de finale.
L'Écosse ou le Japon.
Ils sont déjà en demi.
Les Anglais, ils se prennent qui normalement s'ils avancent dans le tableau?
Australie ou Pays de Galles?
Non, mais en demi. En demi.
Bah, en demi, ce serait Nouvelle-Zélande s'il termine.
C'est la Nouvelle-Zélande. C'est la Nouvelle-Zélande.
Ça peut le faire.
Moi, je mise sur les conditions climatiques pour que.
Oui, il y a
ça
aussi. Il prévoit aussi de la pluie.
Vous pensez que ça va être ça?
Il
n'y
a que ça qui peut faire la différence, je pense. Puisque, imaginons que des pluies abondantes obligent à jouer un jeu resserré, un jeu restrictif. C'est là où ils sont, on va dire, le moins performant, même si j'utilise des guillemets quand je dis ça, puisqu'on sait bien que les All Blacks, c'est quand même une équipe qui est capable d'être aussi forte devant qu'avec les trois quarts. Donc, je pense que ouais, le seul coup de pouce du destin qui peut aider une équipe à les battre, je pense que ce serait une belle averse, un terrain un peu détrempé qui les oblige à limiter le jeu de passe, à aller chercher les extérieurs.
Bah de mémoire, c'est ce qui est arrivé en 2007, quand la France bat à Cardiff les All Blacks en quart de finale de la Coupe du Monde. Je me souviens d'une météo mais horrible pour les Blacks.
Il avait plu un peu, mais la météo n'était pas...
Ouais, il y avait un arbitre qui nous avait un peu aidé aussi.
Oui.
Arrêtons de trouver des excuses, on les avait battus.
C'est vrai que je pense que ça peut être un élément, mais bon, après c'est sûr que intrinsèquement, ils ont, à chacun de leurs postes, ils ont les meilleurs joueurs du monde.
Je pense que le match dont il faut se rappeler, c'est celui 99, où on arrive, nous avec une équipe, personne n'y croyait, eux ils avaient certainement... une des générations les plus brillantes qu'ils aient eu, qui d'ailleurs n'a jamais été récompensée par un titre. Non. Donc oui, ça peut arriver, bien entendu, sur un match.
Il y a l'équipe de France, bien sûr, l'Angleterre dans la poule, les Anglais, le seul pays européen à avoir été champion du monde. Les Anglais, on les met où, les Anglais?
Dans les favoris, je pense.
Ce qui est étonnant, c'est vrai que là, on est face à une Coupe du Monde très, très ouverte. On a quand même
c'est rare, quand
même. On a quand même la Nouvelle-Zélande qui est là-haut, alors je mettrais pas au même niveau classique du Sud, l'Afrique du Sud un peu en dessous. Un petit peu en dessous de l'Australie et l'Argentine qui est quand même avec le Four Nations à voir pour l'Argentine. Mais ensuite on a quand même trois pays européens qui avec l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles, et juste en dessous moi je mettrais la France et l'Écosse sur le même niveau, donc une grosse densité.
Je ferais deux et deux, moi je ferais Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Angleterre, Pays de Galles. Je pense que le Pays de Galles va être la grosse surprise de cette compétition.
Demi-finale en 2006.
Ce sera le départ de Warren Gatland, qui est le sélectionneur historique de cette équipe. Donc il va vouloir marquer un grand coup. Il connaît parfaitement les All Blacks, puisque c'est lui d'ailleurs qui était à la tête de la sélection des Lions britanniques lors de la tournée en 2017, et c'est lui qui a réussi à les faire déjouer. Ils ont surtout un avantage qui est indéniable aujourd'hui dans le rugby actuel, on l'a vu avec le Stade Toulousain, c'est la défense. Le Pays de Galles, c'est la meilleure défense du monde. C'est le meilleur entraîneur avec Sean Edwards, qui est le meilleur entraîneur de défense du monde. Donc je miserais sur eux, et bien sûr l'Afrique du Sud, puisque on l'a vu quand même, ils ont réussi à les taper l'année dernière et à les accrocher cette année. Et l'Angleterre, parce que bon, ben, l'Angleterre, on les a tous vus, quoi. Je veux dire, il n'y a pas rien à rajouter. Quoi.
Alors, personne ne parle de l'Irlande et personne ne parle de l'Australie. L'Australie, je me tourne vers vous, Marek Keta, bien évidemment, obligé. Vous revenez d'un an en Australie. Comment ça se passe le rugby là-bas?
Le rugby là-bas, écoutez, à ma grande surprise, quand je suis arrivé là-bas, l'Australie, qui, on le rappelle, avait été justement face aux Blacks en 2015.
Et qui est double championne du monde.
Double championne 91, 93, je ne sais plus.
En 2003.
Non, 91-99 les Australiens.
Merci Eric.
En Europe à chaque fois.
Et non, à ma grande surprise, là-bas, ce qui marche, c'est le football, le football à 13, le rugby à 13.
Oui, le rugby à 13.
Voilà, qu'on appelle football. Alors là, c'est.
Les jeux à 13, on dit jeux à 13. Jeux à 13.
Donc, l'Australie. Pourtant, qui a gagné cet été, dites-moi si je me trompe, face à la Nouvelle-Zélande, justement. Donc, pourquoi pas créer la surprise pendant cette Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'on parle plus de rugby à 13 à 15. Qu'en Europe, on parle que du rugby à 15. C'est ça qui est quand même...
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a un peu le même schéma là-bas. C'est-à-dire que le rugby à 13, c'est vraiment pour une sorte de classe populaire. Le rugby à 15, lui, en revanche, c'est pour un peu plus bourgeois, disons. Il y a un peu cette même mentalité dans les pays anglo-saxons.
Comme la Grande-Bretagne.
Comme la Grande-Bretagne.
Et ils suivent un peu la Coupe du Monde, quand même, j'imagine.
La Coupe du Monde. Oui, c'est suivi, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas ressenti ça, en tout cas là-bas, en parlant dans les pubs.
Avec modération.
Avec modération,
bien évidemment. Oui, justement, Maxime, l'Australie, on les classe où? Parce que c'est quand même c'est toujours le gros l'un des gros poissons.
C'est une énigme. Ils ont été privés de leur meilleur joueur qui était Israel Folau, parce que bon, il est un peu fou, quoi. Et du coup. C'était un peu, on va dire, le joueur clé. Mais bon, après, ils ont quand même une équipe assez expérimentée. Honnêtement, moi, j'attends de voir le premier match, en fait, de l'Australie pour me prononcer. Je ne sais pas trop quoi en penser de cette équipe. Ils m'ont étonné.
Ils ont joué déjà.
Je veux dire, le premier match important, je veux dire, pas contre les Fidji.
Aujourd'hui.
Parce que, oui, le premier match contre les Fidji, ils ont été dominés la première mi-temps. Et après, quand ils ont accéléré, on a bien vu qu'ils étaient là. Mais je n'ai pas considéré ce match comme un vrai premier test de la part des Australiens. C'est pour ça que dans ma tête.
Après, Fidji, quand même, pourquoi pas équipe surprise, on parle.
Les Fidji, ça peut être.
Oui, dans les équipes.
C'est vrai qu'il y a quand même l'Australie et le Pays de Galles à plus
Ils ont déjà perdu contre l'Australie.
D'accord. Donc, mais là, ça va être. Faudra un exploit. Mais c'est vrai qu'il y a une ligne d'arrière assez phénoménale du côté des Fidji.
Comme souvent.
Et pour l'Australie, c'est vrai que je rejoins Maxime, on sait pas trop où ils en sont. On les attendait pas trop non plus en 2015. Ils font quand même finale. Ça va dépendre d'énormément de facteurs.
Du tableau
aussi. Voilà, du tableau. Ça va dépendre de qui vont tomber.
Mais ils tombent l'Angleterre ou la France.
Oui, si on sort. C'est ça. Ouais. La logique voudrait, à l'heure actuelle, l'Angleterre ou la France. Il y a un autre pays qu'on ne parle pas. On va parler un petit peu de la France quand même. Ma feuille qui tombe. tout à l'heure.
L'Irlande.
L'Irlande. Je me souviens l'année dernière, fin d'année dernière, je crois que c'était l'un de vos coups de cœur, Maxime, sur le Six Nations. Et là, on n'en parle pas. C'est vrai que l'Irlande, vous nous l'avez vanté, comme la meilleure équipe du monde à ce moment-là. On reprend au
Il était encore numéro un mondial il y a quelques jours. La Nouvelle-Zélande est repassée devant en faveur de sa victoire contre l'Afrique du Sud.
On est en train de parler.
C'est vrai, on n'en parle pas.
On est en train de parler de l'Irlande, deuxième nation du monde, qui gagne le tournoi des Six Nations
il y a deux ans
maintenant. Et on n'en parle pas dans les favoris. Pourquoi?
Si, ils y sont, mais c'est. Ils ont la même histoire avec l'Irlande. Ils ont été très solides là contre l'Écosse. Moi, je m'attendais à ce que les Écossais les embêtent un peu. Pas du tout. Ils n'ont même pas une seule occasion d'essai, ce qui est rare parce que c'est quand même des grands attaquants. C'est une équipe très solide, mais à chaque fois, ils ont le même problème dans toutes les compétitions qui durent, c'est qu'ils ne tiennent pas la distance parce qu'ils n'ont pas le réservoir qui leur permet de tenir la distance. Et si par malheur, ils ont un joueur clé qui est blessé.
Qui est blessé, c'est mort.
Que Sexton est fragile. Et voilà, pour rejoindre Eric, moi je pense que la poule A est aussi la plus facile. Ils ont eu un gros match contre l'Écosse, mais après Japon, Russie, Samoa, c'est ça aussi. Ils vont pas être confrontés dès le premier match à un gros adversaire et ils vont être directement dessus. Donc,
c'est un peu comme l'Australie. Enfin, c'est le premier match, j'ai trouvé un peu. Enfin, je trouve pas qu'on peut pas s'en servir pour étalonner cette équipe. J'ai trouvé l'Écosse totalement muette,
absente.
Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, donc mais ouais, à voir. De toute façon, après,
c'est l'Afrique du Sud en quart, s'il passe.
L'Afrique du Sud en quart, à mon avis,
ça va pas être facile.
Je miserais plus sur l'Afrique du Sud que sur l'Irlande, mais bon,
ça fait déjà une énorme quart de finale potentielle. Hein.
Tous les quarts de finale seraient énormes parce que on a quand même une grosse densité. On l'a dit en début de débat, c'est qu'il y a 5 ou 6 prétendants à la victoire finale.
Potentiellement, on va se projeter. Si la logique est respectée, potentiellement en quart de finale, nous avons Irlande, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Écosse ou Japon, mais normalement, ce seraient les Écossais, Angleterre, Pays de Galles, ou Angleterre-Australie et France-Pays de Galles ou France-Australie. Donc quoi qu'il arrive, ce serait des quarts de finale de titans. Parlons du 15 de France, messieurs. On a 3 minutes pour parler de l'équipe de France. Ils ont réussi leur 8e de finale, on va dire, c'était contre l'Argentine. Je m'explique pour ceux qui suivent de loin la Coupe du Monde. Phase de poule par 5, quart de finale, demi-finale, finale. Ouais. Sauf que là, l'Angleterre est bien au-dessus, sans manquer de respect, les Tonga et les États-Unis en dessous. Ça allait se jouer entre la France et l'Argentine. Premier match des phases de poule. France-Argentine, c'est quand même 8e de finale, c'est gagné.
Oui, c'est vrai que l'équipe de France a fait un gros match, on peut le dire, je pense, tout le monde est d'accord avec moi. C'est vrai que c'était un 8e de finale. Après, pour l'équipe
mais
de France,
c'est pas fini.
Oui, parce qu'on l'a bien vu, on a perdu contre les Tonga la dernière
fois. En 2011. Hein.
Voilà, en 2011. Donc, c'est vrai que l'équipe de France fait plaisir à voir. Je pense qu'il y a eu une mi-temps équipe de France, une mi-temps Argentine. Mais les Bleus, pour la première fois depuis longtemps, moi j'ai l'impression, ont résisté, ont tenu au mental. On a vu le trempe de Camille Lopez. Après, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. On a parlé de la météo, ça va parler des blessés, ça va dépendre du tableau. Donc, on verra. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de commencer une Coupe du Monde en gagnant contre une bête noire argentine.
Oui, ça tenu à l'épaisseur d'une barre transversale pour le droit et d'un poteau sur la dernière pénalité. Donc faux.
Faut pas trop, c'est costaud.
Alors, ils ont dit après le match, la plupart des joueurs ont dit, il y a quelque temps on aurait perdu un match comme ça.
Ce qui est pas
certainement
faux.
C'est vrai. L'important c'est réussi dans la mesure où ils ont gagné.
Provoquer la chance.
Le contraire, puis la première mi-temps était magnifique.
Il y a eu la bagarre à la fin quand même, genre ça s'assoude une équipe.
Oui, voilà, il y a eu la bagarre à la fin.
On va expliquer un petit peu la bagarre de loin parce que on n'a pas trop d'infos là-dessus quand même, mais on peut laisser penser que les Argentins, en deuxième mi-temps ont commencé à revenir au score. On le voyait dans certains regards, on voyait dans certains comportements qui commençaient à chambrer les Français. Et je pense qu'au coup de sifflet final, il y a 2-3 Français qui sont allés voir les Argentins et ça finit par une bagarre générale, au milieu du terrain.
Bon, mais comme la laisse,
comme l'a dit Maxime, ça soude un groupe, ça, Timothée.
C'est vrai que ça soude un groupe, mais après, je pense qu'il y avait une extrême tension dans ce match-là. Ça s'est joué à des petits détails sur la fin.
C'est ce qu'on a dit. Romain
Tamac loupe la pénalité.
Ficou fait une faute énorme.
Ficou fait une grosse faute. C'est vrai que ça a été très très tendu et c'est les ennemis jurés du rugby parce que il y a eu c'était la bête noire, etc. Et il y avait une grosse tension en ouverture de Coupe du Monde, donc c'est pour ça.
J'ai l'impression que c'est presque
mais pour faire plaisir à Jean, on va dire que ça soude un groupe.
Plus nos ennemis que les Anglais, quoi. J'ai l'impression que maintenant.
C'est vrai que les Argentins, on verra pour le crunch.
Ouais, mais bon, je veux dire, je sais pas, j'ai l'impression qu'entre les joueurs, il y a presque plus de tension. Comme des Latins, peut-être, c'est ça qui
se passe. C'est les deux grosses équipes latines, il n'y en a pas d'autres. Les Italiens, sans vouloir les offenser, ils n'est pas dans le même cours aujourd'hui en tout cas.
Qu'est-ce qu'on peut espérer avec l'équipe de France? On a posé cette question tout à l'heure à Yannick Jozion, mais qu'est-ce qu'on peut espérer? Moi j'ai envie de les comparer un peu à l'équipe de France de basket. À moindre mesure. C'est-à-dire une équipe de basket, on ne les attend pas. Ils font troisième en éliminant les États-Unis. Alors je dis pas que la France va éliminer les pays de l'Australie.
C'est ce que je dirais, c'est que
c'est
moi,
un peu la même équipe, quoi.
Si ce serait bien pour l'équipe de France, ce serait de faire un podium finalement. Du coup, c'est-à-dire d'aller en demi et de jouer la troisième place ensuite et pourquoi pas de gagner ce match de la troisième place. C'est très très bien.
Oui, c'est faisable. Mais contrairement à l'équipe de France de basket, c'est vrai que là, il y a eu l'élimination des États-Unis pour l'équipe de France de basket. Il y a eu la défaite derrière. Là, c'est vrai que ça soit les quarts de finale, la demi-finale ou la finale, il y a quand même trois grosses équipes avec potentiellement l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande en finale, l'Angleterre, à voir, mais c'est vrai que ça va être très costaud, ça va être trois matchs de très très haut niveau si l'équipe de France en finale.
On le rappelle que le quart de finale ce serait l'Australie ou le Pays de Galles si la logique bien évidemment est respectée. Eric
Dupré. Ce sera ça de toute façon a priori. Alors moi qu'on batte l'Angleterre en poule, allez savoir.
Mais
ce qui est vrai c'est que si on sort de la poule, ce qui n'était pas écrit,
le mieux c'est
il y a quelques temps tout le monde pensait qu'on ne sortirait pas de cette poule. Après plus rien à perdre. Oui. Après, ils n'auront plus rien à perdre.
Et à choisir.
Donc, les Français sont toujours bons dans ces cas-là. Donc, bon, allez savoir.
C'est bien français d'aller.
Il y a quelques joueurs. Moi, j'ai vu quelques joueurs qui s'affirment vraiment au niveau international, le grand niveau international. Charles Olivon a été exceptionnel en premier
Damien
temps.
Damien Penaud.
Il y a longtemps qu'on l'attendait. Alors, encore un joueur dont la carrière a été complètement gâchée par les blessures.
Mais il revient bien,
perdu,
donc ça fait plaisir.
Perdu pour le rugby. Damien Penaud aussi s'affirme vraiment un très haut niveau. Les lignes arrière ont été bonnes. Les demi se sont plutôt bien tirés, finalement. Romain Tamac, sauf la dernière pénalité, il a mis deux transformations en coin qui nous font gagner. N'oublions pas que s'il en rate une.
Surtout, il faut rappeler son âge, quoi.
Donc, c'est une équipe qui a du potentiel. Bon, devant, il y a quand même quelques trous, c'est vrai, sur l'ensemble d'un match. Bon, allez savoir. Mais
on verra bien. On suivra l'équipe de France.
On sait jamais.
On suivra l'équipe de France. France-États-Unis, c'est le prochain match de phase de poule. C'est le mercredi 2 octobre à 9h45 sur TF1. C'est pour la Coupe du Monde est en clair, en entier.
C'est bien. TMC.
Ou TMC. Et on le rappelle, la finale de la Coupe du Monde, ce sera le 2 novembre au stade à Tokyo. Ce sera à Tokyo. Oui. Et on suivra bien évidemment le parcours de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Merci messieurs. Nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec l'invité de la semaine. À tout de suite. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different. Cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Can you hear the whispers all across the room? You feel her eyes all over you like cheap perfume. You're beautiful, but misunderstood.
Portez-vous bien. L'invité.
Notre invité a disputé tout simplement deux Coupes du Monde de rugby en 2003 et en 2007, jouant donc deux demi-finales de cette Coupe du Monde. Notre invité a même inscrit l'essai victorieux contre les All Blacks en quart de finale de la Coupe du Monde 2007, dernière fois où l'équipe de France a battu les All Blacks et tout simplement dernière défaite des All Blacks. En Coupe du Monde, fort d'une énorme expérience, Yannick Jauzion nous fait le plaisir d'être avec nous. Yannick, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Comment vous avez commencé le rugby, comme d'habitude, comme on peut l'entendre souvent? Vous êtes tombé dedans tout petit?
Oui, tout petit, à l'âge de 7 ans, dans un club où, effectivement, qui a porté haut les couleurs de son club dans les années 80, en l'occurrence Grouillet. Ah oui. Et voilà, c'était par passion, je pense, de mes parents et surtout de mon père qui m'a poussé à faire ce sport.
À quel moment c'est devenu sérieux? Vous avez pris conscience que jouer justement, on va en parler tout à l'heure, des Coupes du Monde, devenir champion de France avec le Stade Toulousain, jouer les matchs de Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain, tout simplement être professionnel, à quel moment on le comprend ça?
Bon, ça s'est fait à peu près à l'âge de 21-22 ans, quand des entraîneurs à Grouillet m'ont poussé effectivement à aller
tenté l'expérience à Coulommiers en top 14. Et c'est vraiment là où, après, petit à petit, ben, j'ai pris conscience que ben, voilà, je pouvais faire pas mal de choses dans le rugby, dans le rugby professionnel. Mais c'est vrai qu'avant cela, bon, j'y pensais pas forcément à faire une carrière dans le rugby. C'était, certes, j'avais fait 4 saisons en équipe 1 à Groyer, qui était la Pro D2 d'aujourd'hui. Mais bon, voilà, il n'y avait pas. En plus, c'était le changement entre l'amateurisme et le professionnalisme. Donc voilà, ça s'est fait au fur et à mesure, on va dire.
Maxime Brossa.
Oui, bonsoir Yannick.
Bonsoir.
J'avais une question. Non, mais justement, comment vous avez perçu ce changement entre le monde amateur et le monde professionnel? Comment ça s'est fait? Ça a été assez brutal ou finalement vous avez vu une évolution progressive?
Oui, il y a eu une évolution progressive parce que c'est tombé effectivement au moment où ça s'est mis en place à la fin des années 90, le professionnalisme. Donc il y a eu forcément des expérimentations qui ont été faites par les clubs en termes de rythme d'entraînement et autres, en termes de cadence, oui, de contenu. Donc voilà, on s'y fait petit à petit. Puis ça a évolué jusqu'en 2013, l'année où j'ai arrêté, hein, où je sentais effectivement que c'était beaucoup plus quand même intense. Et puis il y a le fait aussi qu'en fin de carrière, on baisse un peu de régime. Donc on dit toujours que c'est un peu plus compliqué, mais quoi qu'il en soit, on a vu l'évolution et la concurrence qui a progressé au fil des années. Quoi.
Coulommiers, le stade toulousain, retour sur votre parcours. Quel est le plus beau souvenir et le plus mauvais, malheureusement, dans votre carrière?
Le plus beau, c'est vrai que je dis souvent que ça restera le quart de finale en 2007, c'est contre les All Blacks, parce que c'était un moment magique, on va dire. Le plus mauvais...
L'Angleterre, en demi-finale, peut-être.
Oui, en équipe de France, c'est vrai que les défaites contre les Anglais en demi-finale, ça restera difficile à digérer. Parce qu'on avait, notamment en 2003, je pense, la possibilité d'aller plus loin. En 2007, bon, bien sûr qu'on avait l'équipe pour, mais il y avait des équipes très fortes en face, les All Blacks, les Sud-Africains. Je pense qu'en 2003, on avait la possibilité de faire quelque chose.
Quel sentiment on a quand on va s'aplatir, comme disait Thierry Gilardi à ce moment-là, quand on met le ballon en terre promise? C'est les commentaires qu'avait eu Thierry Gilardi avec TF1 lors de votre essai. Quel sentiment on a? On est vraiment dans le match, on comprend pas qu'on est en passe de battre les All Blacks. C'est après qu'on s'en rend compte de ce qu'on fait.
Oui, mais disons qu'on sentait
le vent tourner peut-être.
Ce match, le vent tourner, on sentait que on marquait un peu plus l'adversaire, les All Blacks en l'occurrence, quand on rentrait dans les espaces. Bon, on sentait qu'ils subissaient plus la situation et qu'on avait quand même la même mise sur le ballon et sur le match. Et après, l'essai lui-même, c'est on est dans le rush d'action. On réfléchit pas à ce moment-là, quoi, voilà. Ça s'est fait que plus tard.
Maxime Brossa.
Oui, moi je voulais vous demander, on avait dit le meilleur souvenir et le pire, mais moi je voulais savoir quel était le joueur qui vous a le plus impressionné au cours de votre carrière. Quel est le joueur qui vous a marqué, contre lequel vous avez joué ou avec lequel vous avez évolué?
J'ai joué contre les All Blacks à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il y en a un, notamment Tadao Maga, qui m'a assez impressionné par ses qualités de puissance et sa dextérité. Donc c'est souvent un joueur que je prends en référence.
Voilà. Deux Coupes du Monde en 2003, en 2007. Quel sentiment on a lorsqu'on joue justement une Coupe du Monde, qu'on représente son pays pour un tel événement?
C'est vrai que la Coupe du Monde 2003, ça a été pour moi vraiment le tremplin de ma carrière, parce que c'est là où j'ai pris conscience de l'événement majeur qui était une Coupe du Monde. Et par rapport à tout l'environnement qui est autour d'une Coupe du Monde, les médias qui retransmettent, qui font monter la sauce un petit peu, comme on dit, puis on se rend vraiment compte qu'on est dans un contexte particulier, et c'est là où je me suis régalé, où après j'ai pu apporter au Stade Toulousain toute l'expérience que j'ai pu avoir pendant cette Coupe du Monde. Quoi.
Une question d'Éric Dupré.
Oui, je voulais, bonsoir plutôt, revenir sur cette demi-finale de 2003 que vous perdez donc contre l'équipe d'Angleterre qui va finalement gagner cette Coupe du Monde. Vous disiez que vous pouviez peut-être aller au bout cette année-là, vous perdez quand même 24-7, mais dans des conditions climatiques assez détestables. Est-ce que vous pensez que si vous aviez joué sur un terrain sec, ça aurait pu donner un autre résultat?
Je sais pas. Bon, c'est vrai que les Anglais étaient quand même très très bien préparés à cette année-là. Mais nous, je dis qu'on aurait pu aller plus loin parce qu'on avait vraiment un pack solide, compétitif. Un peu le même pack en 2007, mais plus jeune. Et c'est quand même les bases de ce sport, hein, les avants. Donc je pense qu'on aurait la possibilité d'aller plus loin. Puis Frédéric Michalak était quand même en réussite. Bon, ce jour-là, un petit peu moins, mais les conditions n'étaient pas simples. Donc on avait effectivement le vent en poupe. Voilà, bon, après c'est toujours, effectivement, chaque match est différent et en l'occurrence, ils ont su mieux gérer que nous cette partie de ces conditions-là. Ouais.
Aujourd'hui, il y a la Coupe du Monde de rugby 2019 au Japon. Quel regard vous portez sur le rugby moderne, sur le rugby d'aujourd'hui ?
Bah, écoutez, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui disent que le rugby a changé, que c'est moins bien qu'avant. Bon, je crois qu'il faut savoir aussi évoluer, il faut savoir apprécier chaque moment. Et bon, moi j'apprécie actuellement l'intensité qu'il peut y avoir, la répétition des actions. Bon, il y a quand même du spectacle pour les téléspectateurs et c'est vrai que je prends plaisir, voilà, surtout pour des événements comme ça. Après, c'est vrai que des fois on tombe un petit peu dans le côté trop professionnel, trop rigoureux, trop préétabli. Bon, voilà, c'est un peu les travers de rugby actuel, mais bon, après il y a quand même qui arrive à faire la différence et on voit quand même au bout de certains temps de jeu des automatismes, la complémentarité, puis toujours de l'instinct, quoi.
Le rugby français pour les clubs se porte plutôt bien. Quel regard vous avez par rapport à ça, en lien bien évidemment avec le 15 de France? Pourquoi les clubs français marchent bien, le 15 de France marche un peu moins bien que ce qu'on a connu, par exemple?
Ouais, c'est vrai qu'on se pose toujours la question de si c'est à cause de ça ou pas, par rapport à la présence de nombreux étrangers.
Nombreux étrangers, oui, bien sûr.
Voilà. Mais je pense que oui, ça y fait forcément à un moment donné, parce que nos jeunes joueurs n'ont pas peut-être la possibilité de s'étalonner, quoi, au plus haut niveau. Et on a vu quelques clubs qui ont quand même mis des plutôt jeunes joueurs dernièrement, que ce soit le Castres Olympique ou le Stade Toulousain. Donc, et ça marche quand même. Ça, voilà, il suffit de donner un peu
confiance. C'est les deux derniers champions de France, d'ailleurs.
Voilà, dernier champion de France. Et puis, c'est vrai que l'équipe de France est composée de pas mal de joueurs jeunes du Stade Toulousain cette année. Bon, ce sont des joueurs doués et qui ont besoin, voilà, de s'expérimenter au plus haut niveau. Et ça leur fait du bien. Et puis, ça fera encore plus de bien au Stade Toulousain quand ils reviendront, quoi, je suis sûr.
Oui, parce qu'on le rappelle, hein, c'est 3 défaites en 4 matchs pour le Stade Toulousain dans ce début de top 14, mais avec de nombreux absents qui sont partis au Japon, justement, le Japon. Parlons du 15 de France. Qu'est-ce que peut espérer cette équipe de France lors de ce mondial ?
Mais je crois que ça nous a fait un bien énorme, là, cette victoire contre l'Argentine.
Oui.
Voilà, une bonne bouffée d'oxygène, même si ça a été compliqué sur l'affaire, on n'a pas su gérer cette deuxième mi-temps. Alors qu'on l'a maîtrisé plutôt très bien, mais bon, voilà, je pense qu'on n'a pas su accélérer et on a trop regardé les Argentins. Donc, je crois que, à mon avis, c'est plutôt bien parti. Le quart de finale se profile bien. Après, je sais pas, c'est toujours des matchs compliqués, les phases finales. Pour enchaîner le quart, la demi, la finale, c'est vraiment pas simple. Les équipes du Sud ont plus l'habitude d'enchaîner ces matchs-là et de les répéter. Nous, on a un peu de mal, des fois on fait un bon match et après on a du mal à assurer la suite. Bon, je pense qu'on arrivera en quart de finale maintenant. Et puis je crois qu'on n'a plus rien à perdre, un peu comme ce qui s'est passé finalement en 2007, quoi.
Exactement, Maxime Brossard.
Vous avez un pronostic pour cette Coupe du Monde, qui va s'imposer à votre avis?
Oh, c'était le débat juste avant. Ouais. Donc,
Oui, c'est vrai que moi je disais, bon, je vois les Français arriver en quart, mais je ne suis pas sûr qu'ils arrivent après à gagner le titre.
C'est l'Australie ou le Pays de Galles encore?
Je voyais pas mal les Anglais, quoi.
D'accord.
Parce qu'ils ont raté la dernière Coupe du Monde et se sont préparés comme il faut pendant 4 ans. Voilà, après. Okay.
On verra bien, c'est la vérité du terrain. On le rappelle que l'Angleterre est dans la poule de l'équipe de France. On parle encore une fois de l'équipe de France. Il y a eu des finales de Coupe du Monde, des demi-finales de Coupe du Monde. Et c'est vrai que depuis 2015 et cette très lourde défaite face aux All Blacks, justement en quart de finale lors de la dernière Coupe du Monde en Angleterre, c'est vrai que la France, le 15 de France est pas au top. On a connu mieux. Qu'est-ce qui fait que ça va mal? Qu'est-ce qui a été manqué dans un passé glorieux? La transition, on a l'impression, a été loupée à un moment donné.
Ben, ça fait plusieurs, on va dire, mandats d'entraîneur que cela ne fonctionne pas. Il y a eu effectivement un raté. Bon, je pense qu'il y a un groupe peut-être qui n'a pas été assez compétitif à un moment donné, peut-être des défaillances. Et j'ai senti à un moment donné que, notamment devant, il manquait quelque chose. Et puis on sent aussi, et c'était flagrant aussi pour le match contre l'Argentin, on sent qu'il y a des individualités, mais que des fois la complémentarité, elle n'y est pas toujours. Alors, je ne pense pas que ce soit tout le temps un problème de manque de temps d'entraînement ensemble. C'est des bases du sport un peu à retrouver, des choses simples à faire. Parce qu'on a vu des belles choses en première mi-temps, puis après on sent que des fois on se perd un peu des mauvaises passes ou des choses approximatives. Mais voilà, après, je pense qu'il y a des individualités, notamment derrière, et mêlé au fait que bah, devant, peut-être qu'il a manqué à un moment donné de la consistance, quoi. Hein, les bases, bon, voilà, ça entraînait effectivement des mauvais résultats. Et puis, vous savez, après, quand on commence un tournoi ou une tournée avec une défaite, les joueurs apprennent du mal à relever, effectivement, à relever tout ça, parce qu'il y a la pression des médias derrière. Et, voilà, c'est plus difficile.
C'est plus difficile. Il y a Galtier qui reprend le 15 de France à la fin de la Coupe du Monde. Il est dans le staff là, de l'équipe de France. Bien évidemment, il y aura le Mondial 2023 qui va se disputer en France. C'est le moment où jamais on a envie de dire non ? Ou c'est trop tôt encore pour le dire ?
Oui, non, mais c'est sûr. Je pense que Fabien Galtier a fait du bien en arrivant parce qu'il a apporté peut-être des nouvelles idées, un peu de fraîcheur. Et ça donne toujours un coup de fouet, quoi. C'est sûr. Donc, je suis sûr qu'il va pouvoir avoir les moyens, surtout, de mettre en place ce qu'il souhaite mettre en place au niveau de la stratégie et autres, au niveau de la mise à disposition des joueurs, peut-être. Et puis, c'est quelqu'un qui est. C'est un compétiteur, quoi, Fabien, donc il va aller au bout des choses. Voilà, donc je pense que ça va être intéressant de suivre un petit peu l'évolution de cette équipe de France après la Coupe du Monde et jusqu'en 2023.
Et en 2023, la Coupe du Monde, comme en 2007, la Coupe du Monde de rugby. On a parlé du rugby, on a parlé de vous. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment on peut vous suivre? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui après cette carrière de rugbyman professionnel?
Je me suis reconverti par rapport à mon diplôme que j'ai eu à l'école d'ingénieur agricole de Purpa à Toulouse, à la fois dans l'activité de production de ginseng, c'est une racine d'ailleurs venant d'Asie, notamment consommée au Japon, mais produite en Chine, et puis voilà, dans le courtage d'assurance pour entreprise, donc ce sont mes deux activités à l'heure actuelle. Les produits à base de ginseng sont vendus sous la marque Jardin Occitanie, voilà, donc pour faire référence à notre région. Et puis le courtage en assurance, c'est assez général au niveau des entreprises et des différents secteurs d'activité, mais forcément notamment dans les milieux agricoles, puisque je connais bien ce secteur. Quoi.
Yannick Josion, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne Coupe du Monde également. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Messieurs, c'est déjà terminé. Merci Marek Keita d'être venu. Vous serez là sans doute la semaine prochaine, j'y manque pas. N'oublions pas le Rodez Sochaux de vendredi soir. Bonne semaine avec Sportez-vous bien. À lundi.
Vous aimez les émissions de Radio Présence ? Vivante Église, Parole d'auteur, Immersion, La conférence de la semaine, Des clés pour vivre,
Présent.
Immersion, La conférence de la semaine, Des clés pour vivre,
Présent.